Chapitre 2. Sébastien s'exaspérait des scrupules de Mathilde quand il lui offrait de l'argent ou un logis commun au centre de Paris. Mathilde, vraiment, avec une prudence ombrageuse, dérobait trop sa vie. Alors, pour surprendre ses secrets, il décida de s'installer, à son insu, dans sa maison de la rue Lepic. Un matin, vers 10 heures, il rendit visite à Madame Gobert dans sa loge. Celle-ci, par malice, d'abord le rabroua. « Je vous reconnais, monsieur. C'est vous qui accompagnez Mathilde Baudry certains soirs. Je n'ai rien pour vous, rien. Vous tracasseriez la maison. Moi, renseignez-vous sur mon compte. Vous débaucheriez Mathilde. Au contraire, je n'aurais jamais songé à habiter dans votre maison si je ne voulais pas veiller sur le sort de votre locataire. » À ces instances, il ajouta une pièce d'or que, doucement, avec une sorte d'embarras, il sortit de son porte-monnaie. D'un geste machinal, Madame Gobert avait tendu la main. En fouissant la pièce dans sa poche, elle prononça un merci rapide, puis, avec un accent de gravité maternelle, répartit « Les jeunes gens d'aujourd'hui ne sont pas toujours convenables, mais je vois à qui j'ai affaire. Venez, un de mes logements vous conviendra. » Ils gravirent l'escalier, sombre et dur. Au deuxième, sous la chambre de Mathilde, une chambre était vacante, pareillement disposée. Sébastien, avec enthousiasme, l'accepta. « Je l'entendrai marcher là-haut. »« Parbleu ! Ne lui dites pas un mot. »« Bigre, non, elle serait capable de filer et je vous perdrai tous les deux. » Madame Gobert se délectait déjà du poème d'amour qui allait fleurir dans sa maison. Sébastien exigea quelques réparations. Madame Gobert, qui se promettait bien de n'en décider qu'à sa guise, assura à Sébastien qu'il pourrait emménager dans la huitaine. Ému d'une complicité, ils descendirent, Sébastien si heureux qu'il marquait de la déférence à Madame Gobert. Au seuil de la loge, il lui serra la main. Pendant ces 8 jours, Sébastien ne montra plus de chagrin à Mathilde, plus d'impatience. Elle, loin de soupçonner sa supercherie, s'alarma de le perdre. Elle cherchait quelle jalousie allumait dans son cœur, en lui racontant, par exemple, sa visite chez M. Jaume qu'elle lui avait cachée, lorsque, le samedi soir, elle ne le trouva point au lieu ordinaire de leur rendez-vous à la Madeleine. Rouge d'effroi, elle partit dardard pour Montmartre, repoussant avec brutalité sur son passage, dans la nuit, les hommes qu'attirait sa chair fraîche. Là-haut, sans doute, un message de Sébastien l'attendait. Madame Gobert semblait guetter, du seuil de sa loge, un de ses locataires. « Bonsoir, madame, salua Mathilde. Vous n'avez rien pour moi ?»« Non, ma fille. »« Ah, tant pis. » Elle monta tristement. Tout à coup, au deuxième, une porte s'ouvrit. Un homme, tel un bouc, se rua sur elle. Déjà, elle criait, se débattait en furie, lorsqu'elle reconnut la voix glorieuse de Sébastien qui l'embrassait. « Je vous ai fait peur, Mathilde ?»«
Ma foi, oui.
J'ai loué cette chambre. » »«
Ici, sous la mienne ?»«
Oui. » Elle tremblait encore, son cabas à ses pieds. Elle laissa échapper un aveu.
« Je craignais de vous avoir perdu. » »«
Pas si vite, entrez. » »«
Non. »
« Alors je monte chez vous. »«
Non plus. »«
Baste, un jour ou l'autre, ne tromperai-je pas votre vigilance ?»«
Soit, montez. Vous verrez que chez moi, il n'y a rien que de pur. »
Elle le précéda dans l'escalier avec un frémissement de pudeur qui excitait Sébastien davantage. Dans la chambre, tandis qu'elle refermait la porte à clé, il alluma gentiment la lampe. Puis, les bras ballants, en extase, il regarda sa bien-aimée. L'émotion d'être seule chez elle, à l'écart du monde, tous deux aussi libres que deux oiseaux sur une branche, l'empêchait de parler. De l'autre côté de la table, avec un peu d'appréhension, elle ôtait son chapeau, en souriant aussi. « Nous allons, dit-il, fêter notre rencontre. »«
Où donc ?»«
Dans un restaurant, voulez-vous, à la Fourmi ?»
« Soit, je viendrai. Laissez-moi donc me changer un peu, mais ne me surveillez pas trop. »
Il détourna les yeux. Cependant, elle ne se gênait guère.
ayant ôté sa robe, son cache-corset et les bras nus, ainsi que sa gorge, qui avait un éclat de marbre rose, elle se savonna le cou, la nuque, les seins dorés. Elle se recoiffa vivement, avec adresse, ainsi qu'elle faisait toutes choses. Sébastien admira l'opulence de cette chevelure blonde qu'elle tordait sans ménagement entre ses doigts agiles. « Belle, belle étoile » murmura-t-il, « que ne puis-je vous toucher maintenant ?»«
Pas même vous avancer !»
Devant la glace, elle rajusta son corsage, avec le même soin toujours, parisienne, à qui la beauté donne le génie des parures. Elle épingla son chapeau, disposa sous les ailes, alentour, une mousse de ses cheveux. Puis, espiègle, elle s'inclina vers Sébastien.
« Me voilà, je suis à vous !»
Il se leva, si ébloui de félicité qu'il n'osa mettre sa bouche sur la sienne, qu'elle offrait, humide et rouge, comme un fruit. Elle prit ses gants, son parapluie, et, souveraine, désigna la porte à Sébastien, qui obéissait avec empressement. Tels que de bons époux, ils partirent paisiblement vers les bruits de Paris. Les boulevards extérieurs s'animaient déjà de leur carnaval nocturne. Des femmes aux visages peinturlurés comme leurs robes, des rôdeurs faméliques, les peintres, aux amples pantalons de charpentier, se coudoyaient confusément sur les trottoirs étroits, sur les chaussées glaciales, dans une odeur de phare, d'alcool et de fumier. Mathilde et Sébastien s'installèrent à la fourmi, dans la salle du rez-de-chaussée, aux décorations prétentieuses. Çà et là, des femmes, chipotant leur dîner du bout des dents, observaient avec envie la nouvelle venue qui resplendissait comme une étoile. Mathilde, avec sa franchise de paysanne bien portante, mangea d'un fort bon appétit, but de fréquentes rasades. Elle parla de l'avenir, sagement, avec Sébastien, de leur projet de communion. Sébastien, enivré par son bonheur, s'aventura si loin dans ses exigences qu'elle dut le rappeler à la raison.
« Vous ne me posséderez, mon ami, que lorsque nous serons mariés. Sans le mariage, bernique. »«
Vous changez vite d'humeur. »«
Non, je suis très contente, mais votre mère tarde beaucoup à se décider. »
« Eh bien, si elle ne se décide pas, je me marierai sans son consentement. » Sur cette promesse, ils achevèrent leur bouteille de Bourgogne. Brûlante de joie, elle accepta toutes les largesses de Sébastien. Au Moulin Rouge, elle s'amusa des jeux sensuels de la scène, de la brutalité des chansons provocantes qu'elle avait envie d'accompagner au refrain. Puis, dans le troupeau des femmes, que le vice ou la pauvreté rejette comme une écume de la vie paisible du monde, elle eut pitié des plus jeunes, des enfants de son âge, épuisés par le travail de l'amour, pâles d'ennui et de contrainte. Et, serrant Sébastien à son bras, elle voulut fuir ce lieu d'horreur et de mensonge. Sur le boulevard, les rôdeurs aux voix rauques chantaient par groupes, frôlant les passants avec rudesse. Mathilde frémissait de dégoût, de crainte. La pensée de Pierre surgit soudain, comme une ombre sur ses pas.
« Vous tremblez ?» lui dit Sébastien. « Peut-être, on s'est tant amusé. »
Chez eux, dans l'escalier, elle reprit son assurance. Au deuxième, elle s'arrêta, fière, contre Sébastien, qui la serrait sur sa poitrine.
« Vous oubliez encore nos conditions, » dit-elle.
« Allons, se résigna-t-il, c'est vrai. Adieu, dors bien. »
« Toi aussi. »
Elle rit de ce tutoiement qu'elle lui permettait de bon cœur afin de le récompenser de sa docilité. Un quart d'heure après, elle s'endormait dans son lit sans la moindre inquiétude. Le matin, un feu lourd rongeait son front. Elle s'habilla sans bruit, avec la précaution pour ne pas réveiller son camarade au-dessous. Un peu en retard, elle acheva sa toilette dans la rue. Une bise noire chassait des tourbillons de poussière autour des ménagères courant aux boutiques, des ouvriers descendant au travail. Mathilde fermait presque les yeux au froid. Le cabas sous son mantelet, elle hâtait le pas, courageuse, frappée de la semelle pour se réchauffer. Tout à coup, au milieu du boulevard, elle aperçut sur un refuge, contre la colonne du bec de gaz, un ouvrier jeune, roussâtre, dont le vent battait comme un drapeau la blouse blanche. Elle frissonna d'épouvante, ralentit son pas. En cet homme, immobile, blêmi par le froid, peut-être par la faim, elle avait reconnu Pierre Virazel, le compagnon de ses rêves d'autrefois.
Il était donc venu à Paris l'interrompant sa fortune. Par quel pressentiment avait-il deviné le quartier où elle se cachait de lui? Craintive, son mantelet sur la tête, elle continua son chemin. Pierre observait les passants, à droite, à gauche, avec une telle anxiété que sa vision en était troublée. Ses yeux s'attachèrent à la femme éperdue qui dissimulait sa figure, au loin, toujours plus loin, et, la reconnaissant aussi à la vivacité de son allure, à l'élégance de ses formes, il bondit d'un contentement sauvage pour la joindre. Elle, dans son désarroi, chercha un secours, un abri. Un tram passait pour l'Étoile. À tout hasard, elle y grimpa, voulut sur la plateforme se cacher, avec un si profond émoi qu'un monsieur, par compassion, lui céda sa place à l'intérieur. Pierre, qu'une charrette avait heureusement interrompu dans sa chasse, poursuivait le tram. « Complet !» cria le conducteur, qui dut lui arracher les mains de la rampe. Pierre s'obstina, farouche, pouvant à peine proférer des mots de prière et de désespoir. Il courut ainsi, tel qu'un chien fidèle, jusqu'à l'Étoile. Dans le froid du matin, il suait. Les voyageurs, en quittant le tram, se moquèrent de lui sans qu'il y prît garde. Mathilde descendit enfin, la dernière, son cabas à la main, exagérant son malaise de froid pour inspirer de la bonté. Pierre la saisit par un bras dans sa poigne de fer, la regarda au fond des yeux avec un sentiment de bravoure et de tristesse. Il l'entraîna, sans savoir où, vers les Champs-Élysées, dans le grand espace des chemins et du ciel. « C'est moi, oui » gronda-t-il.
« Je le vois bien. Pourquoi es-tu venu ?»«
Pour te reprendre. »«
À cause du monde, lâche-moi. On nous regarde. »«
Pourquoi m'as-tu abandonné ?»
J'en avais assez de grouiller dans le désordre et la malpropreté de la famille. Tu n'aurais pas voulu me laisser partir si je t'avais dit mon dégoût.
Pourquoi as-tu cessé de m'écrire?
Parce que tu me menaçais, et moi, je veux rester ici.
Possible, mais il faut que tu sois à moi. Tu t'es perdu dans ce Paris?
Crois-tu donc que je me livrerai au premier venu?
Pensais-tu à moi?
Oui. Je te plaignais, je te regrettais. »
Il s'était arrêté contre un gros arbre avec une appréhension étrange de rentrer dans Paris. Le réseau noir des branches les cachait un peu du ciel d'où tombaient des rayons de soleil. Mathilde, prise de pitié pour les supplices que, par sa faute, Pierre avait endurés, remarqua son dénuement, ses souliers poudreux, sa blouse fripée, surtout son visage, si plein de santé autrefois, ravagé maintenant par la faim et l'indigence.
« Tu as souffert, Pierre ?»«
Beaucoup. »«
Tu n'as pas d'argent ?»«
Non, ni de travail. »«
Tu as l'intention de rester ici ?»«
Tant que tu resteras ici toi-même. »«
Oh, je ne te crains pas. Tiens, je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi, mais il faut que tu manges. »
Elle avait prestement soulevé sa robe et retiré d'une vaste poche qu'une épingle accrochait à la ceinture de la jupe, son porte-monnaie, où il vit luire 2 pièces de 5 francs.
« Je t'offre un écu en regrettant de ne pouvoir mieux. »«
Merci, j'accepte. Depuis 2 jours, je n'ai pas mangé. Tu comprends que mon premier souci sera de te rembourser. »«
Songe à t'embaucher quelque part, c'est l'essentiel. »«
Quel malheur d'être pauvre! M'aimes-tu toujours? Tu ne m'as pas embrassé comme autrefois. » D'une main, il essuya une larme dans ses yeux. De l'autre, il toucha Mathilde sur l'épaule. Elle, honteuse d'être surprise par du monde entre les bras d'un ouvrier si malpropre, épia furtivement entre les arbres autour des vertes pelouses. Puis, pour se débarrasser de sa présence, elle s'abandonna d'un coup à sa prière. Il l'étreignit de toutes ses forces et de nouveau se plaignit. « Pourquoi, là-haut, sur cette place où je te guettais depuis 1 heure, t'es-tu échappé par le tram ?»«
J'avais peur que tu me battes. »
Il sentait l'aigre, le rance, sous la blouse. Avec une perversité d'enfant, elle se moqua de lui par un mensonge.
« J'habite rue Germain-Pilon, numéro 4, lui dit-elle. C'est à Montmartre d'où nous venons. Tu m'y aurais bien trouvé, d'ailleurs, avec ton flair de chien jaloux. »
Il inscrivit l'adresse sur son carnet poisseux avec son énorme crayon de maçon. Elle profita de sa bonne humeur pour déguerpir d'un brusque essor en le saluant de la main. Lui, déconcerté, la suivit tristement des yeux, avec un émoi d'inquiétude.